Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Depuis un peu plus d'une semaine, avec le docteur Jimmy Mohamed et toute l'équipe de Sans Rendez-vous, nous nous mobilisons dans ce combat contre l'épidémie de coronavirus en France. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Bonjour docteur Jimmy Mohamed, comment allez-vous ?
Bonjour Mélanie, bah écoutez, ça va, aujourd'hui il fait beau, on va dire que même si on ne peut pas sortir, ça donne un peu un moral, un peu un meilleur moral, donc on continue, on est aussi ravis d'être là pour répondre aux questions des auditeurs.
Allez, au programme aujourd'hui, pour répondre justement à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. Nous commencerons avec l'infectiologue, le professeur Eric Combe, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son service justement fonctionne déjà à flux tendu. Il nous racontera comment ça se passe et comment surtout il voit les choses pour les jours, les semaines à venir. Après ça, nous nous arrêterons sur une autre profession au cœur de cette crise sanitaire, les infirmiers libéraux. Tous les jours, ils continuent de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Eux aussi, ils ne comptent pas leurs heures. Pour en parler, nous appellerons Florence Henry, elle a créé une plateforme Liberos, une sorte de Doctolib pour les soins infirmiers à domicile. Et puis il y a un sujet qui inquiète beaucoup les autorités en ce moment, c'est l'augmentation à craindre des violences domestiques, que ce soit envers les enfants ou même dans les couples. Alors comment prévenir ces situations et aider ceux qui en ont besoin ? Nous verrons ça avec un spécialiste de ce sujet, le docteur Gilles Lazimi. Autre conséquence du confinement, notre horloge biologique risque d'en prendre un coup. Faut-il continuer à coucher les enfants à l'heure habituelle ? Comment s'exposer à la lumière quand on n'a plus le droit de sortir ? Nous poserons toutes ces questions à la chronobiologiste Claire Lecomte. Enfin, pour terminer, une petite touche de douceur à la fin de l'émission avec notre psychanalyste et sexologue Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle va nous donner plein de conseils sur le flirt à distance.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Eric Combe. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Combe, vous êtes chef de service maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission et on vous en remercie parce qu'on sait que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Comment ça se passe aujourd'hui, au moment où on se parle, dans votre équipe, dans votre service ?
Bah écoutez, ça va, on est fatigué, hein, inutile de vous le dire, mais ça va, ça, on tient le coup, on appréhende beaucoup les jours qui viennent quand même.
Oui, parce que le pire est peut-être encore devant vous. À ce stade, j'imagine que tous vos lits dans votre service, qui est donc spécialisé dans les maladies infectieuses, hein, tous vos lits sont occupés par des patients atteints de coronavirus ou pas seulement ?
Oh, si, oui. Tous nos lits sont occupés par des patients atteints de coronavirus et depuis déjà plusieurs jours.
Et vous auriez encore de la place éventuellement s'il y avait besoin ? Je veux dire, on sait que c'est à flux tendu, que les choses s'organisent, mais s'il y a de nouveaux malades et il y en arrive, il y a encore un peu de place ?
Alors en fait, oui, dans notre hôpital, on a encore de la place, mais je pense que vous vous êtes fait l'écho des propos du directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris ce matin, Monsieur Martin Hirsch, qui a clairement dit qu'on allait être saturé dans les jours qui viennent, et donc on appréhende beaucoup cette période.
Jimmy Mohamed.
Le professeur Adnet avait dit que l'augmentation du nombre de malades en réanimation était de 10% tous les jours. Vous, de votre côté, quel flux vous avez supplémentaire ? Est-ce que vraiment on a cette augmentation exponentielle qui est décrite ou on est encore à flux constant avec peut-être une vague qui risque d'arriver dans les jours à venir ?
Non, la vague, elle nous a déjà touchés. Hein. On peut pas nier parce qu'il faut pas prendre en compte uniquement les hôpitaux, disons des beaux quartiers parisiens, mais aussi ce qui se passe en périphérie de Paris et ce qui se passe en périphérie de Paris est quand même très inquiétant. La plupart des hôpitaux, si ce n'est tous, sont complètement saturés, voire même débordent. Donc c'est pas encore le cas de tous les hôpitaux de Paris intramuros, mais il y a déjà pas mal d'hôpitaux de Paris qui sont aussi saturés, donc on pense qu'on sera bientôt saturés.
Parce qu'on parlait souvent de limitation du nombre de lits en réanimation, du nombre de respirateurs, on a dit qu'on pouvait bricoler, augmenter un petit peu la capacité, mais on oublie aussi le service d'urgence et les hospitalisations classiques, puisque tous les malades n'iront pas en réanimation, et c'est surtout pour absorber les malades qui sont graves, mais pas si graves que ça aussi.
Alors effectivement, il y a toutes les activités froides, donc de chirurgie réglées, ont été repoussées. On utilise les capacités des anesthésistes, donc qui s'occupent de ce qui encadre la chirurgie, pour transformer les salles de réveil post-chirurgie en salles de réanimation. Et donc on arrive à s'adapter encore dans de bonnes mesures, mais on sait très bien qu'on va arriver à un moment où on ne pourra pas étendre les murs.
Et professeur, comme les patients qui souffrent d'autres infections, parce que je disais tout à l'heure, vous êtes donc le patron du service maladies infectieuses, par exemple des infections respiratoires ou autres, votre patientèle habituelle, je dirais, ils vont où du coup en ce moment? Parce que ces gens-là, ils existent toujours, j'imagine qu'il y a toujours des pneumonies ou autres causées par d'autres virus ou bactéries.
Ben effectivement, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Alors initialement, il avait été décidé qu'il y ait certains hôpitaux qui soient Covid free, hein, c'est-à-dire sans patients de Covid, pour qu'on puisse d'ailleurs leur transférer ces malades-là. Au jour d'aujourd'hui, ces malades-là ne nous arrivent plus, donc j'imagine qu'ils vont dans d'autres structures. Je peux pas faire d'autres hypothèses à l'heure actuelle, mais en tout cas, clairement, on a que des patients Covid dans nos lits.
Ouais. Jimmy?
Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie, là on parle beaucoup du coronavirus, mais à l'époque où j'étais aux urgences, lorsqu'on avait des pneumopathies, il fallait les hospitaliser, des pyélonéphrites, des infections parfois atypiques, des fièvres retour de voyage, on avait quand même la maladie infectieuse qui servait de relais à la médecine interne. C'est vrai que désormais tous les lits sont occupés par du coronavirus. Est-ce que vous ne craignez pas une surmortalité liée au fait que nous mettons toute notre énergie, et c'est normal, sur le coronavirus, et puis que derrière, peut-être certaines pathologies vont être mises de côté par manque de moyens ou en tout cas manque d'effectifs?
Alors effectivement, c'est une très très bonne remarque. C'est exactement ce qui se passera. Et c'est pour ça que on appréhende énormément la saturation des hôpitaux, non seulement à cause des patients Covid évidemment, mais aussi à cause des patients non Covid qu'il ne faut pas oublier. Or on sait que quand on a à gérer un phénomène épidémique ou une catastrophe naturelle ou une catastrophe d'un autre ordre, par exemple lors de l'attentat du World Trade Center, il y avait eu autant de décès de l'attentat lui-même que de la désorganisation des services de santé et des autres services d'urgence suite à l'attentat.
Professeur, comme on est confiné donc pour au moins 5 semaines de plus, c'est ce qui a été recommandé par le Conseil scientifique hier, vous pensez que ça sera suffisant? En Chine, on voit qu'au bout de 2 mois, ça a l'air d'aller mieux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, fondamentalement?
Alors, si j'ai bien compris ce qui a été dit, le Conseil scientifique recommande de prolonger le confinement.
C'est ça.
Mais
on
en fait, voilà, les politiques prendront la décision comme ils ont fait depuis le début. En fait, c'est d'un côté, il y a la santé des Français, de l'autre côté, il y a l'économie française. C'est un challenge très difficile à résoudre.
Mais 5 semaines, ça vous paraît bien, quoi? Enfin, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est raisonnable de dire de donner ce délai-là.
La vérité, c'est que je ne sais pas. Je constate qu'en Chine, qui a eu un confinement très très efficace, ils sont sortis du confinement très progressivement il y a à peine, je crois qu'ils
quelques
recommencent
jours,
aujourd'hui,
ouais.
Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, on verra déjà si la maladie ne repart pas en sortant du confinement en Chine. Donc en fait, il faut se coller à ce qui se passe en Chine,
ouais,
et ce qui se passe en Italie. On va vivre exactement la même chose. Il n'y a aucune raison qu'on vive les choses différemment. On a déjà fait cette erreur une première fois de penser que ça n'arriverait qu'aux autres et pas à nous. Ne la refaisons pas une deuxième fois.
Merci professeur Combes. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Avec nous en ligne aujourd'hui plusieurs experts. Mais d'abord l'infectiologue Eric Combes qui reste avec nous juste après pour répondre à vos questions parfois très pratiques. On y vient, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission toujours aujourd'hui évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Eric Combes. Je rappelle que vous êtes infectiologue et chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur Combes, on va prendre tout de suite la question très pratique de Michel qui nous l'a posée donc au 39-21. On va l'écouter.
Oui, bonjour, Michel Amoir à l'appareil. quand les gens font du jogging, bon nombre de personnes crachent par terre. Combien de temps le virus est-il maintenu en vie sur un crachat ?
Bon, c'est une question pratique. Il y a beaucoup d'interrogations, c'est vrai, sur la persistance de ce virus sur les surfaces. Alors là, j'imagine que dans un crachat de quelqu'un de potentiellement malade, là, le virus, il est là et bien là pour un petit moment, non ?
Alors effectivement, le virus peut rester dans les crachats plusieurs jours, alors que sur une table, il reste quelques heures, en dehors du crachat. Parce qu'en fait, le virus, sa durée de vie est plus longue quand il est dans un crachat que quand il n'est pas dans le crachat, c'est ce que je voulais
dire. Donc pas très malin les joggeurs qui crachent en ce moment, s'ils peuvent éviter, c'est peut-être mieux d'ailleurs.
Bah, de toute façon, cracher, c'est vraiment, ça me rappelle les affiches du début du siècle dernier. Vous savez, à l'époque, on savait pas quoi faire pour lutter contre la tuberculose. Et un des moyens qu'on avait de lutter contre la tuberculose, c'était d'aérer les appartements et de ne pas cracher. Et bah, exactement, c'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui, même si le mode de transmission est un peu différent. Faut aérer les pièces et faut éviter de cracher, qui sont vraiment des habitudes,
mauvaises
habitudes. Les sportifs devraient donner l'exemple, soit dit en passant.
Ouais. Jimmy ?
Professeur Combes, est-ce que vous avez l'impression qu'on découvre au fur et à mesure des formes un peu atypiques de la maladie ? Je donne l'exemple par exemple d'un confrère qui a diagnostiqué une myosite, donc c'est une inflammation des muscles, en gros pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, chez une jeune femme qui avait de la fièvre, à qui on a retrouvé le coronavirus. Est-ce que vous pensez qu'on va découvrir peut-être des formes digestives, des formes neurologiques du virus qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, ou pour l'instant les choses semblent un peu stables ?
Alors, vous avez raison, c'est très probable qu'on découvre de nouvelles formes cliniques de cette maladie. Donc effectivement, il y a des myosites, il y a peut-être des myocardites, il y a des atteintes neurologiques, et notamment il y en a une qui est très caractéristique et qui n'avait pas été très bien décrite jusqu'à maintenant, qui est la perte de l'odorat et la perte du goût. La perte de l'odorat a l'air très caractéristique du Covid. Et puis il est probable qu'on découvre encore d'autres choses. Il y a des phlébites et des embolies pulmonaires aussi qui apparaissent particulièrement fréquentes. Donc la réponse à votre question est oui, on découvre de nouvelles formes cliniques.
Professeur Combes, autre question de Muriel sur le hashtag Radio Ouverte. Peut-on dire à ce stade que ça y est, toutes les personnes qui toussent ont forcément le coronavirus ? En gros, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris le dessus sur toutes les viroses d'ailleurs habituelles en cette saison ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore de la grippe ?
Écoutez, c'est effectivement actuellement le coronavirus, on porte tout sur son passage, mais de toute façon les grippes étaient des formes très mineures hein, cette année, et puis on arrivait en fin d'épidémie grippale au moment où le coronavirus a vraiment
émergé. C'était un coup de chance, mais bon.
Donc c'était disons une coïncidence heureuse.
D'accord. Et donc en ce moment, donc et le fait du confinement, de toute façon en soi, j'imagine que ça, si le confinement il est utile pour éviter la transmission du coronavirus, il est utile aussi pour arrêter la transmission des autres viroses, hein.
Ah, c'est une très bonne remarque. On est quasiment sûr qu'on va voir beaucoup de maladies diminuer considérablement rien que par le respect des précautions barrières et notamment le fait de ne pas serrer les mains.
Jimmy, vous le voyez, je crois, vous, en consultation, vous voyez quasiment plus de gastro, vous m'aviez dit tout à l'heure en préparant l'émission, plus de rhino,
c'est ça ? Exactement, moins de virose chez les enfants, ça c'est lié au fait qu'on ait fermé les écoles, moins de gastro-entérite ou des tableaux digestifs qui finalement ressemblent à du coronavirus. Mais j'avais une question, professeur Combes, nous les généralistes on fait des arrêts maladie lorsqu'on a une suspicion de coronavirus de 14 jours, on leur explique qu'il peut y avoir une aggravation au 7e jour et qu'il faut reconsulter, mais est-ce que on est contagieux aussi longtemps ? Est-ce que la maladie lorsqu'on a une forme mineure peut-être est moins contagieuse, je sais pas, au bout d'une semaine déjà ?
On ne sait pas tellement en fait combien de temps on reste contagieux parce que, comme vous le savez, les tests permettent d'identifier le matériel génétique du virus, ce qu'on appelle les PCR, mais ne permet pas de dire si on est contagieux ou pas contagieux. Autrement dit, on peut trouver du virus par PCR dans les crachats par exemple ou dans les sécrétions oropharyngées, mais pour autant ne pas être contagieux parce que le virus pourrait ne pas être viable. En fait, on ne connaît pas très bien ça. Ce qu'on considère au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est contagieux 24 heures avant le début des symptômes et qu'on reste contagieux jusqu'à la fin des symptômes, et on dit même 48 heures après la fin des symptômes. Mais c'est assez arbitraire, en fait.
D'accord. Puisqu'on est sur la contagion, professeur Combes, j'en profite pour vous relayer aussi une autre inquiétude qu'on retrouve beaucoup dans les questions de nos auditeurs en ce qui concerne leurs vêtements. Est-ce qu'il survit le virus sur un manteau, par exemple, avec lequel on a été faire ses courses ? Celle-là, on nous l'a posée souvent.
Bah écoutez, comme il est peu probable que la caissière ou le caissier ait craché sur votre vêtement, voire ait postillonné dessus, puisque vous avez a priori respecté la distanciation sociale, qui je rappelle est d'au moins 1 mètre et si possible de 2 mètres, le risque est quasiment nul à partir du moment où on se lave les mains correctement.
Allez, encore une petite question au 3921 de Véronique qui vit dans le 12e à Paris, on va écouter sa question.
Oui, bonjour, je suis Véronique, j'habite dans le 12e. J'ai entendu que les personnes dont le groupe sanguin est O sont moins touchées, voire pas touchées par l'épidémie. Est-ce que c'est les épidémies en général ou pour le coronavirus ? Merci.
Professeur Combes, ça vaut quoi ça ? Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, on ne sait plus trop ce qui est des fake news, ce qui est véritable. Enfin, les groupes sanguins, il y en aurait des protecteurs, c'est possible ça ?
Oui, je vous avoue que moi aussi, j'ai de plus en plus de mal à suivre et à séparer le bon grain de l'ivraie, comme on disait autrefois. Pour les groupes sanguins, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en fait, la gravité de la maladie a l'air plus liée à la réponse immunitaire de l'hôte à l'agression virale qu'au virus lui-même. Et cette réponse immunitaire de l'hôte qui peut être disproportionnée et bien évidemment est gouvernée par notre patrimoine immunitaire qui est lui-même sous la dépendance de notre patrimoine génétique. Patrimoine génétique qui conditionne aussi nos groupes sanguins. Donc il est très certain qu'il y a une susceptibilité génétique.
Merci beaucoup.
Après, est-elle liée au groupe sanguin, je ne sais pas.
On le découvrira peut-être dans quelques temps. Il y aura beaucoup de leçons, j'imagine, à tirer. Vous allez apprendre beaucoup au cours de cette épidémie, vous-même les infectiologues. Merci beaucoup, professeur Combes, d'avoir été avec nous, car on le sait, vous êtes très occupé. On vous laisse retourner à vos patients, évidemment. Merci encore et on vous souhaite bon courage.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. Nous appellerons une infirmière libérale, Florence Henry. Elle a créé une plateforme Libéros, une sorte de Doctolib pour les soins infirmiers à domicile. Et ses professionnels sont sur le pont aussi dans cette crise sanitaire. Elle va nous raconter tout ça. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans Rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone Florence Henry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes infirmière et vous avez créé une plateforme qui s'appelle Libéros. C'est une sorte de Doctolib pour les soins infirmiers à domicile, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez, vous, j'imagine, une bonne vision du travail des infirmiers libéraux sur le terrain. En ce moment, ça se passe comment pour eux ?
Alors, en ce moment, ça se passe comme ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y a une grande disparité sur le territoire national. Les infirmiers libéraux sont sollicités, comme vous le savez, pour les soins à domicile, donc pour toute sortie d'hospitalisation. Et aujourd'hui, dans le cadre du Covid, ils sont d'autant plus sollicités pour prendre en charge les patients qui sont atteints du Covid et qui sortent d'hospitalisation. Donc, il y a des pénuries de masques, il y a des zones qui sont beaucoup mieux loties que d'autres, mais clairement, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mais ils se déplacent encore vraiment beaucoup au domicile des patients, surtout pour motif, je ne sais pas, de coronavirus, ou plus encore pour assurer le travail habituel, je dirais, qui continue. On l'oublie parfois, nous, mais il y a vraiment encore beaucoup de déplacements à domicile ?
Alors oui, il y a encore beaucoup aujourd'hui de déplacements à domicile. Nous, on a vu une disparité dans la demande de soins qui sont faites sur libéraux.fr. C'est-à-dire que typiquement, on a beaucoup plus de prises de sang qui sont demandées à domicile. On a beaucoup plus de surveillance aussi de jeunes mamans ou de personnes de femmes enceintes, donc dans le cadre de suivi de sages-femmes. Et on a également de plus en plus de demandes de suivi de patients Covid en post-hospitalisation. Et ce qui est important en fait pour les infirmiers, c'est vraiment de savoir si le patient est infecté ou pas, pour qu'ils puissent d'une part se prémunir, donc utiliser des gants, des masques ou une surblouse, et savoir s'ils doivent alterner en fonction de leurs patients qui ne sont pas atteints et les patients atteints, donc d'avoir 2 tournées différentes dans la journée ou dans la semaine pour assurer une bonne continuité des soins et surtout une sécurité pour tous.
Jimmy ?
Pour les médecins, il y a la télémédecine et ça semble être un outil plutôt performant et intéressant aussi pour les patients. La télé-soins infirmiers est désormais autorisée. Est-ce que c'est un réel plus et est-ce que c'est vraiment utilisé en pratique ? Surtout, je pense notamment parfois aux des personnes un peu âgées qui n'auraient pas forcément les outils nécessaires pour l'utiliser.
Alors vous avez raison, il y a un nouveau soin alors qui existe déjà dans la nomenclature depuis un petit bout de temps, mais sur lequel il n'y avait pas de décret qui indiquait le montant de ce télésuivi. Et là, dans le cadre du Covid, de l'épidémie, il y a ce télésoin. En fait, pour expliquer, c'est un suivi à distance qui est fait donc par un infirmier, que ce soit par un téléphone, par visio ou par un outil de téléconsultation. Et ce télésuivi permet, donc sur prescription médicale, attention, hein, il est uniquement sur prescription médicale, et permet donc aux patients d'avoir un appel de l'infirmière de manière fréquente. Tout ça, c'est prescrit par le médecin. Pour s'assurer que le patient n'a pas de symptômes d'aggravation ou n'a pas de dyspnée, par exemple, pour faire remonter cette information au médecin. Et donc ça, c'est un acte qui n'est pas encore très bien connu des infirmiers parce qu'il vient de tomber la semaine dernière. Et donc, c'est vraiment digital. Et donc, on a écrit un article sur ça. Il y a pas mal de choses qui sont tombées. On essaie d'éclaircir cette situation et ce type de soins pour nos pros, pour leur permettre d'accompagner les patients.
En action, évidemment. Oui. Alors, on sait désormais il y a pas mal de médecins malades. On a entendu beaucoup des chiffres, même des décès, malheureusement, à cause du coronavirus. Est-ce que vous constatez ça aussi sur le terrain, du côté des infirmiers ?
Écoutez, là, pour l'instant, moi, dans notre communauté d'infirmiers, il doit y avoir des infirmiers qui ont le Covid. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour au point d'avoir malheureusement des décès chez les infirmiers libéraux. Je sais qu'il y en a eu un chez les infirmiers hospitaliers. Peut-être qu'aujourd'hui, on a les infirmiers libéraux ont encore un petit peu de chance de pouvoir se prémunir, peut-être au domicile et d'avoir moins de liens avec des patients Covid. Mais c'est clair que ça peut arriver dans les prochains jours où il y a de plus en plus de patients qui vont sortir d'hospitalisation et il faudra prendre en charge ces patients.
Jimmy ?
Les infirmiers libéraux sont évidemment, comme d'autres soignants, en première ligne dans cette épidémie. Est-ce qu'ils sont suffisamment protégés, les masques qui doivent être livrés en pharmacie, est-ce qu'ils ont pu les récupérer ?
Alors, comme vous le savez tous, la livraison de masques et puis de masques partout en France a été notamment...
Je sens que la réponse va être non, le temps que vous prenez, vous n'êtes pas équipé,
Non, mais en fait, si vous voulez, c'est malheureusement pas à moi de répondre à cette question et que tout le monde nous pose cette question. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour pouvoir écouter les besoins des infirmiers.
Il suffit de regarder les réseaux sociaux, il y a plein d'infirmiers libéraux qui communiquent et qui montrent qu'ils n'ont pas de masques ou qu'ils se sont fabriqués des masques.
On peut répondre non, clairement. J'ai croisé notamment une infirmière hier qui n'avait pas de masque.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des mesures qui sont mises en place. Là, on a notre groupe, on a mis en place un groupe Facebook justement pour notre communauté d'infirmiers, de plus de 12 000 infirmiers libéraux, sur lequel ils peuvent indiquer donc la région dans laquelle ils se trouvent, les besoins et puis pour quand. Et puis d'autres qui peuvent dire aussi qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme solution, notamment une infirmière dans le 77 qui a mis en place avec la mairie une salle de sport dans laquelle ils vont rapatrier tout le matériel, que ce soit du masque, du gel, des surblouses, et comme ça tout le monde aura un point d'accès pour aller chercher tout ce qu'il faut pour soigner les patients
beaucoup.
À domicile.
Merci beaucoup Florence Henry d'avoir été notre invitée aujourd'hui. J'en profite pour dire aussi, du coup, au passage, un grand bravo à tous les infirmiers qui sont sur le terrain en ce moment. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, ce rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Restez sur Europe 1. Vous écoutez Sans Rendez-vous sur Europe 1, mais avant de répondre à toutes vos questions concernant le coronavirus, on va se détendre avec un peu de musique et d'amour. Allez, soyons fous. Je vous propose d'écouter le chanteur Thomas Dutronc. Ça m'a troublé, du coup, ça s'appelle « Plus je t'embrasse ».
Let's be happy. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
Musicale sur Europe 1, son nouvel album Frenchie est sorti le 20 mars. C'était Thomas Dutronc avec son dernier titre, Plus je t'embrasse.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. Alors depuis quelques jours, vous l'avez compris, notre émission s'adapte évidemment. Nous restons mobilisés pour vous informer, mais depuis chez nous, grâce à des moyens techniques exceptionnels. Alors à présent, on accueille par téléphone le docteur Gilles Lazimi. Bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes généraliste à Romainville et aussi très engagé, un acteur important de la lutte contre les violences domestiques. Docteur Lazimi, on va peut-être commencer par les enfants, avant de parler de ceux qui malheureusement étaient déjà dans des situations familiales compliquées. Est-ce que vous, vous craignez que les violences envers les enfants explosent tout court à cause de ce confinement de toute la population ?
Tout à fait, tout à fait. Il y a un risque majeur que des parents qui n'utilisaient pas, par exemple, les violences éducatives ordinaires, aujourd'hui se retrouvent liés au stress, liés au confinement, dans des situations où ils risquent de recourir à nouveau à ces méthodes obsolètes qu'on avait enfin réussi à faire disparaître, en tous les cas dans la loi. Donc effectivement, c'est un risque majeur pour ces enfants. Ce confinement, c'est quand même quelque chose d'assez inédit et assez difficile. Hein. Être parent, c'était déjà difficile. Hein. C'est du 24-24, on sait que c'est dur. Mais là, 24 heures sur 24, être parent, enseignant, animateur de loisirs, faire du télétravail, ça fait beaucoup. Donc il va falloir organiser la journée, organiser son temps et faire en sorte à chaque fois de se remettre en question et de remettre les choses à leur place en sachant qu'on a un enfant devant nous et qu'en fonction de ses besoins, il va falloir se contenir comme on le fait par ailleurs au travail.
Vous dites que certaines personnes vont avoir à nouveau recours, mais moi je peux vous dire, même ceux qui n'y ont jamais eu recours, j'ai plein d'amis qui me confient là en ce moment sur le ton de l'humour ou pas d'ailleurs, rien que le travail scolaire, ça les rend fous, les parents craquent, les enfants pleurent. Comment on gère ça à la maison sans avoir recours à la fessée, voilà, par exemple, hein, c'est ça qu'on craint aussi.
Ouais, surtout, déjà, il va falloir ne pas vouloir être le meilleur enseignant, le meilleur animateur. Ça, c'est vraiment important de se dire ça. On ne peut pas tout faire. Donc, être attentif à son enfant, c'est aussi être attentif à soi. C'est aussi prendre des temps pour pouvoir souffler, pour pouvoir organiser des temps de jeu, des temps de loisirs, des temps d'isolement, des temps de méditation. Il faut organiser la journée. Il faut effectivement ne pas être seul, ça c'est clair. Et quand vous dites que certains parents vont recourir alors qu'ils ne recouraient pas avant, tout notre passé revient. Tout notre passé revient et on va, vis-à-vis des enfants, minimiser. Il n'y a qu'à voir sur Internet tout ce qui traîne sur les cas que reçoivent les enfants aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fait pour vraiment banaliser et minimiser. Donc, ce qu'on ne fait pas avec les adultes, il ne faut pas le faire avec les enfants. C'est vraiment important de le rappeler. Deux, prendre du temps pour soi. Ça va être difficile hein, quand on est dans deux pièces ou une pièce, c'est très difficile. Sortir un petit peu, passer la main et puis organiser des temps d'activité. C'est essentiel. Par exemple, moi j'ai des amis et des parents qui organisent de 10h à 10h30 une chorale, qui vers 11h30 vont faire du sol à cordes, qui vers
j'ai délégué les cours de maths parce que je m'en sors pas du tout, même si voilà. Les CM2 à ma sœur qui est en Bretagne et ça se passe bien du coup.
Tout à fait. Faire de la télétransmission, faire du relais, c'est très très important. Faire du Skype. Écoutez, si on perd 15 jours ou un mois d'études, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'on prenne le temps à jouer, à découvrir les choses. Les enfants reprendront ensuite contact avec l'école. On peut apprendre de différentes façons sans vouloir redevenir professeur ou être professeur. C'est éminemment difficile, mais tous les parents se rendent compte à quel point c'est dur d'être enseignant. Donc, il n'est pas question d'être enseignant. Il est question d'être parent le moins mauvais possible et le plus attentif à nos enfants. C'est dur, mais on peut y arriver.
Docteur Jimmy Mohamed, pardon.
Oui, non mais Mélanie, vous disiez que vous avez délégué les mathématiques justement à votre sœur. Tant mieux, heureusement que vous ne m'appelez pas. Moi, j'ai 3 enfants, ça suffit. J'ai pas plus de temps accordé à qui que ce soit. Mais plus sérieusement, chers confrères, on sait que les violences éducatives, vous les combattez depuis des années. Mais sans parler de violences physiques, les enfants risquent aussi de subir des violences verbales, des insultes, des humiliations qui pourraient aussi avoir le même impact psychologique et même neurologique sur un enfant.
Bien sûr, c'est très important de le rappeler, ça faisait partie d'une campagne qu'on avait lancée il y a quelques années, les mots qui blessent. Cette loi qui a été votée et qui a été promulguée le 11 juillet doit être accompagnée, et on attend, ça tarde à venir malheureusement, doit être accompagnée par des campagnes de sensibilisation, doit être accompagnée par des petits films, par des outils pour permettre aux parents, pour sensibiliser les parents au fait que chaque mot peut avoir une incidence, peut blesser un enfant et peut le marquer. Hein, et tous, nous sommes tous des adultes, on a le souvenir de mots qui nous ont blessés à la maison ou à l'école, et qui sont cette petite musique qui peut persister et provoquer des faiblesses ou de l'anxiété, des manques d'estime de soi. Donc effectivement, il faut rappeler qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie, et un enfant de n'importe quel âge, s'il entend des mots blessants, tu es bête, tu ne vaux rien, pourquoi je t'ai fait, des mots qui sont terribles.
Hein, ça peut le traumatiser pour très longtemps.
Frère, ça peut effectivement les traumatiser, ou en tous les cas, ça va persister. Vraiment, la notion de petite musique qui est là dans la tête en permanence fait que demain, adultes et adolescents et adultes, ils auront des difficultés dans la relation aux autres et dans l'apprentissage du stress et de leur anxiété.
Docteur Lazimi, une éducation bienveillante, même en période de confinement, ça n'empêche pas d'établir des règles, par contre, on est d'accord? Vous ne pensez pas qu'en responsabilisant un petit peu plus les jeunes, en expliquant que tout le monde doit y mettre du sien, nous, on a prévu de faire une charte familiale, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui circulaient sur les réseaux sociaux, c'est une bonne idée ça, oui?
Ben, évidemment, une charte, un règlement, faire avec, partager les tâches, c'est très très important. Discuter ensemble de comment on va faire les choses, c'est essentiel. Il faut des règles. Il n'est pas question de ne pas frapper, c'est essentiel. Mais être autoritaire et être chef de meute dans une famille, c'est normal. Les adultes décident du bien des enfants sans violence, ni physique, ni psychologique.
Alors justement, le docteur Jimmy Mohamed, il est chef de meute. Lui, il a 3 garçons à la maison. Vous avez une question, Jimmy?
Oui, bah oui, parce que c'est vrai qu'on est de nombreux professionnels à alerter la population, justement à être plus vigilants. Et si, par exemple, on peut donner un exemple, si on entend des bruits suspects, des cris chez les voisins, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les gens doivent taper à la porte? Est-ce qu'on appelle la police? Quel conseil pratique on peut donner aux gens?
Il est clair que déjà on était très mauvais dans le repérage des violences faites aux enfants et qu'on signale largement insuffisamment les enfants victimes de violences. Là aujourd'hui, dans la situation où on est, si on entend des hurlements, des cris, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller frapper à la porte de son voisin, faire sa connaissance. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais à 20h...
Parfois, ça peut aider à faire retomber la tension déjà dans la famille,
hein,
c'est ça ?
Tout à fait. Et puis dire aussi, on est tous dans le même bain et on peut s'aider. À Romainville, on a créé une maison des parents il y a 20 ans. Et dans cette maison des parents, c'était essentiel. Les parents pouvaient parler de la difficulté qu'ils avaient à élever leurs enfants parce qu'on n'a pas été formés à être parents. Ça, c'est une première chose. Donc, parler avec les autres, c'est important. Deux, discuter avec les voisins de fenêtre en fenêtre, de rue en rue, c'est très, très important. Là, quand on voit que les gens applaudissent, moi, je découvre des voisins autour de chez moi. C'est quand même formidable.
Vous ne connaissiez pas, oui, moi aussi, chez moi, c'est pareil.
Je ne connaissais pas. Bon, c'est quand même incroyable. Mais c'est vachement important parce qu'on va pouvoir communiquer de fenêtre en fenêtre.
Bien sûr.
Et on va pouvoir faire savoir aux autres qu'on est là. Et effectivement, si on entend des hurlements, des pleurs incessants, mais c'est notre devoir pour les enfants d'appeler le 119 ou, si c'est plus grave, d'appeler le 17. Je crois qu'on a le seul risque, c'est de se tromper. Eh bien, écoutez, c'est pas grave
c'est
de
pas
se tromper.
Grave, ouais.
Il vaut mieux vraiment faire le nécessaire, car ce sont des situations qui risquent, dans des familles très fermées, très maltraitantes, de devenir de plus en plus grave du fait du confinement. Donc,
merci beaucoup, docteur Lazimi, effectivement, d'avoir été avec nous en ligne. Il nous rappelait qu'il faut tous que l'on reste vigilant donc vis-à-vis de ces violences domestiques, chez soi bien sûr, mais aussi autour de nous. Donc on garde les yeux et les oreilles ouvertes. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient, des questions médicales ou du quotidien sur le coronavirus. Vous nous en avez laissé encore beaucoup aujourd'hui, notamment sur le rythme à adopter, les heures de coucher des enfants, la qualité du sommeil qui est déjà altérée chez certains à cause du stress ambiant. La chronobiologiste Claire Lecomte nous répondra à toutes ces questions dans une toute petite minute. Restez sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, nous sommes en ligne avec la chronobiologiste Claire Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Claire Lecomte, avant de rentrer dans les conseils pratiques, juste un point, on va dire, d'ordre général. On est d'accord, si on ne fait rien et qu'on ne met pas en place deux, trois choses dont on va parler pendant ce confinement, qui va durer encore probablement au moins 5 semaines, notre horloge biologique, mm-hmm. elle va trinquer. Donc, quels sont les principaux risques pour nous ?
Ben oui, effectivement, si on ne régule pas quelque chose, ça va effectivement désynchroniser complètement nos horloges et on aura du mal à reprendre après, quand tout sera désynchronisé, c'est clair.
Alors on vous a invité aujourd'hui car sur le hashtag Radio Ouverte notamment, on a reçu pas mal de questions, notamment de parents qui se demandent s'il est important pendant ce confinement de maintenir les heures de coucher pour les enfants. On a par exemple Marie-Lou de Besançon qui nous dit que chez eux ils ont décidé de faire comme pendant les grandes vacances, les enfants se couchent au moins 2 heures plus tard puisqu'ils se lèvent finalement 2 heures plus tard aussi. Claire Lecomte, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution, non?
Non, c'est pas du tout la bonne solution. Tout simplement parce que on sait que c'est la première partie de nuit qui est la plus importante et ça n'est pas celle du matin justement qui est importante. Donc il faut au contraire respecter régulièrement les heures de coucher et même aider les enfants à trouver le bon moment de l'endormissement. Ce bon moment de l'endormissement, on peut le ressentir quand on a un coup de froid en fin de journée ou bien dans la soirée, parce que ça veut dire que la température est en train de baisser dans le cerveau et va ouvrir la porte du sommeil. Donc aider les enfants au contraire à être acteurs par rapport à ça, c'est une bonne chose. Et il faut savoir que la première partie de la nuit de sommeil, elle comporte une partie de sommeil qu'on appelle le sommeil profond, qui est celui qui va nous aider à lutter contre les virus, les bactéries et les microbes. Donc il faut absolument préserver ce moment-là.
Oui,
donc non, surtout pas retarder les heures de coucher.
D'accord. Jimmy ?
Est-ce que le week-end, on peut un petit peu relâcher les règles du coucher ou il faut maintenir cette rigueur toute la semaine comme si nous étions en période normale, comme si on allait à l'école tous les jours, comme s'il n'y avait pas ce confinement ?
Ben, écoutez, moi je vous dirais que je conseille à tous ceux que je rencontre de respecter, y compris le week-end, les heures de coucher et de lever. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a besoin de se coucher plus tard par plaisir, alors qu'on se rend compte que finalement les enfants sont plus fatigués après. Il y a une étude britannique qui a prouvé, en suivant une cohorte de plus de 10 000 enfants, qu'à 7 ans, les enfants qui sont les plus distractibles, etc., sont ceux qui, dès l'âge de 3 ans, ont eu des retards de coucher réguliers toutes les semaines. Donc c'est vraiment une étude sérieuse qui a été faite et qui est publiée et qui montre bien que ces retards de coucher ne sont pas profitables.
Oui.
Moi, je suggère au contraire qu'on ait des horaires réguliers pour avoir des journées bien pleines, où on est bien en forme.
D'habitude, le week-end, parfois, on les couche un peu plus tard aussi parce qu'on n'a pas beaucoup profité d'eux pendant la semaine. Donc, on essaye parce qu'on veut faire durer un peu le plaisir avec les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on les couche plus tard habituellement. Mais là, les enfants, on les voit beaucoup. Donc, c'est pas la peine de changer. Du coup, c'est peut-être le moment de les coucher à la même heure, même le week-end, justement.
Oui, mais moi, j'ai envie de dire que même les week-ends où on les voit pas beaucoup quand on travaille toute la semaine, il vaut mieux profiter le matin d'avoir un petit déjeuner où on est tous ensemble et où on traîne plutôt que de traîner la veille au soir. Moi, ça me paraît plus profitable.
D'accord. Et pour ce qui est des adultes, c'est vrai qu'on a tendance, nous aussi, même pour ceux qui télétravaillent encore, à se coucher. Moi, c'est vrai que je me couche plus tard. Enfin, c'est parce que je cogite aussi. Enfin, on est un peu anxieux, on réfléchit à l'organisation. Du coup, on dort moins que d'habitude, nous aussi, les adultes. Est-ce qu'il y a des conseils pour les adultes ?
Ben, pour les adultes, ce serait la même chose, hein, normalement, respecter ses horaires. Et je crois qu'il faut aussi profiter de ces temps libres qu'on aura, parce que je pense en particulier aux Parisiens, à tous ceux qui habitent en Ile-de-France, ils n'ont pas les temps de déplacement en ce moment, donc ils gagnent quand même beaucoup de temps. Et il faut profiter des matinées, qui sont des matinées où tout le monde est beaucoup plus disponible, pour faire tout ce qu'on a d'important à faire. Mais profiter aussi de, si on s'est couché à la bonne heure, quand on se réveille relativement tôt, enfin c'est pas très tôt, mais relativement tôt, on peut traîner pour prendre le petit déjeuner. Et ça, c'est un moment tout à fait favorable. Parce qu'on va pouvoir discuter de ce qu'on va faire de sa journée. On va pouvoir faire son agenda pour la journée. On va aussi proposer aux enfants de respecter un repère temporel. Parce que ça, c'est un risque aussi, de perdre des repères temporels. Donc moi, je propose à tous les enfants et même aux adolescents que dès que le matin, ils vont se mettre à faire quelque chose, que ce soit des dessins chez les plus jeunes ou que ce soit le travail qu'on doit faire pour l'école, etc., on met bien la date avec le jour et la date. Ça permet vraiment de conserver ces repères temporels.
Bien sûr. Jimmy ?
Claire Lecomte, on a une autre question sur le hashtag Radio Ouverte de Simon qui dit que lui, avec tout le stress en ce moment, il dort très mal. Est-ce que faire des siestes est une bonne idée pour rattraper son manque de sommeil ?
Absolument. Et j'ai envie de lui dire qu'il vaut mieux qu'il se lève le matin dès qu'il se sent réveillé plutôt que de traîner au lit et plutôt faire une sieste. parce que la sieste, elle arrive à un moment très particulier du point de vue de la chronobiologie. C'est un moment qu'on appelle le creux méridien. C'est ce que vous ressentez souvent comme le coup de pompe après avoir mangé. Vous pensez que vous êtes en train de digérer, pas du tout. C'est une vraie baisse physiologique globale qui est au milieu de notre rythme circadien, de notre rythme de 24 heures. C'est pour ça que la sieste, elle est favorable. Alors, elle est évidemment favorable aux enfants, mais elle est également favorable aux adultes qui manquent de sommeil beaucoup plus que de traîner au lit le matin.
Bon, ouais, chez moi, c'est là, tout le monde fait la sieste, sauf moi, parce que je suis en train de vous parler, ça tombe bien, vous avez vu, on vous a écouté avant même de le savoir. Claire Lecomte, on sait que l'exposition à la lumière du jour, elle est très importante aussi pour réguler notre horloge biologique. Comment on fait là pour gérer le manque de lumière naturelle, puisqu'on n'a pas le droit vraiment de sortir, voire une heure par jour éventuellement? Il faut se mettre à la fenêtre, ou est-ce que il faut choisir un moment dans la journée où on peut sortir? Moi, je sors mes enfants un tout petit peu devant mon immeuble, il y a personne, hein, enfin, juste pour qu'elles fassent un peu de vélo, qu'elles se dégourdissent. Est-ce qu'il y a une heure de préférence pour les sortir, pour avoir cette lumière, cette bonne lumière?
Écoutez, quand on a le plus de luminosité, c'est bien. C'est pour ça que la fin de matinée, c'est bien. Par exemple, avant de manger, même si on mange un petit peu plus tard ce midi-là, c'est pas très grave. Et en fait, on sait qu'il faudrait qu'on ait un minimum de 30 minutes de lumière naturelle. Tout simplement parce que cette lumière naturelle, elle permet d'aider une hormone qui est l'hormone du sommeil, qu'on appelle la mélatonine, à être bien synthétisée. Qu'on appelle la dépression saisonnière en plein hiver, c'est le manque de luminosité qui fait qu'on ne synthétise pas assez bien notre mélatonine. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter cela et avoir au moins 30 minutes de lumière naturelle tous les jours. Donc comme vous le dites, sortir un petit peu en bas de chez soi ou même sur le balcon à la limite, hein, là où on peut avoir vraiment de la
et
lumière naturelle.
Et alors, il y a du soleil, on n'attend pas la fin de la journée, quoi.
Ah non, surtout pas la fin de la journée. Je crois vraiment que c'est sur le méridien, enfin, au moment de midi que le soleil est le plus important.
Bon,
là,
on va changer d'heure en plus.
On va changer d'heure, donc on va avoir le soleil encore plus tôt. Donc, il faut en profiter à ce moment-là, absolument.
Merci beaucoup, Claire Lecomte, d'avoir été avec nous pour nous donner tous ces bons conseils. Grâce à vous, on est paré pour garder une horloge biologique, bien qu'elle est. Merci encore.
Je vous en prie.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec la chronique sexo de Catherine Blanc. Mais d'abord, un peu de musique sur Europe 1. Je vous propose d'écouter Néa, de son vrai nom. La chanteuse suédoise s'appelle Linnea Sodal et ça s'appelle Some Say. Yeah, yeah. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say. I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say. chanteuse suédoise Néa et son morceau Some Say.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, un peu de douceur nous arrive tout droit de Paris. Vous êtes chez vous, Catherine Blanc. Catherine
Absolument.
Blanc, qui est donc sexologue
et psychanalyste. Confinée comme tout le monde.
Voilà, on attend un peu de douceur avec vous pour terminer cette émission. Qui dit confinement, dit donc on n'a pas le droit de sortir, donc impossibilité de rencontrer quelqu'un, de flirter, pour ceux qui sont célibataires par exemple. Aujourd'hui on va aborder par la drague à distance, par message, application ou vidéo. Il paraît que y a certains fournisseurs de ce type de service qui disent que ça explose. Bon, le problème c'est que ça reste à distance, mais c'est un mal pour un bien ça?
Écoutez, je trouve ça plutôt intéressant, puisqu'au lieu d'être dans la consommation immédiate et où on se saute les uns sur les autres sans avoir vraiment élaboré quoi que ce soit, sans avoir bien mesuré si c'était bien là son désir, là évidemment les gens se parlent, se reniflent à distance, s'écrivent, s'envoient des photos, ce qui est peut-être plus facile pour certains, peut-être encore un peu trop rapide.
Prennent le temps de faire connaissance en fait, c'est ça vraiment.
Exactement, c'est-à-dire qu'ils flirtent au sens premier du terme, c'est-à-dire quand t'es fleuré. Alors certains, encore une fois, quand des fleurettes est plutôt assez agressif parfois quand c'est par l'appui de photos de sexto notamment. Mais en tout cas, les gens se prennent le temps de la mesure, puisque à chaque information de l'un, l'autre doit prendre le temps d'y répondre, d'y réfléchir, de voir si ça lui correspond toujours. Alors il y a évidemment un engouement, c'est-à-dire qu'on va peut-être parfois au-delà de ce que l'on pourrait vivre ou supporter ou oser dans la vraie vie, puisqu'il n'y aura, ça ne sera pas suivi de conséquences. Ou au contraire, ça permet d'élaborer plus en douceur, plus en délicatesse, de se montrer petit à petit, de lever le voile de sa pudeur.
Jimmy ?
Catherine, moi je fais de la téléconsultation de temps en temps pour décharger certains confrères. Est-ce qu'on pourrait aussi faire un premier rendez-vous vidéo, une forme de téléconsultation romantique entre deux personnes qui font une première relation, ou ça sert strictement à rien la vidéo là comme ça, faut peut-être attendre la fin du confinement ?
Je crois qu'il faut faire aussi avec les outils de notre époque. Je pense que se voir même par vidéo, comme hier s'écrire, c'est dommage d'ailleurs qu'on ait oublié la plume, mais c'était aussi extrêmement érotique. Donc ce qui est vrai dans un café autour d'un verre est aussi vrai de se voir de visu, de se sourire, de s'envisager. Maintenant, on n'est pas obligé tout de suite non plus de se mettre en lien visuellement. On peut aussi prendre le temps de se parler, prendre le temps de réfléchir ces mots,
mais avant de remettre un peu les
de s'écrire
aussi, au cœur
bien
de la
sûr maintenant bien sûr maintenant ce que j'aime bien de ce que dans ce que vous dites Jimmy, c'est que quand on s'écrit, on peut aussi inventer des personnages que nous ne sommes pas, on peut jouer à être, tandis qu'évidemment quand on se parle, quand on est les uns face aux autres, quand on est dans la réalité de sa fatigue peut-être visible sur son visage ou de son environnement, où on peut pas trop mettre en scène, c'est aussi une façon de s'aborder avec un peu de vérité. Donc ce n'est pas à exclure, et puisque nos moyens techniques nous le permettent aujourd'hui, pourquoi pas.
Et puis ce flirt à distance, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a un côté un peu moins stressant, je dirais, pour les grands timides par exemple. On n'a pas le stress de la rencontre tout de suite, ça laisse le temps d'y aller doucement, quoi, c'est ça ?
Absolument, on n'est pas obligé de faire acte de performance dans la façon de se montrer, de se voir. J'indiquerai simplement que si les gens doivent se regarder, se parler, se regarder, qu'ils ne se soumettent pas à l'injonction de l'autre, qui voudrait tout d'un coup une absence de pudeur excessive qui correspondrait pas nécessairement à son besoin. D'où le fait que je conseille quand même que les choses se fassent progressivement et à la mesure de ce que l'on sent intuitivement, correspondant à son émotionnel propre, que l'on profite de ces distances qui sont entre nous aujourd'hui pour bien mesurer ce qui est notre volonté, notre territoire, notre couleur personnelle, et pas répondre toujours à l'injonction hier d'une société et via l'autre de la société, et aujourd'hui peut-être plus précisément d'un autre individu qui dirait cap ou pas cap quand on ne l'est peut-être pas. Donc faites attention de ne pas vous mettre en danger, notamment sur des supports informatiques.
Et tout ça, bien sûr. Jimmy ?
Exactement.
Et Catherine, pour les personnes qui sont déjà en couple, est-ce que lorsqu'on est confiné, on doit quand même faire un effort de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, on va dire même de se doucher ? Ou est-ce qu'on doit faire comme Mélanie, on reste en pyjama toute la journée en attendant que le temps passe ?
Je suis même maquillée aujourd'hui, j'ai fait un effort.
Voilà, donc je crois, j'adore, on est tous à distance, ça tacle la mort. avec tendresse, c'est merveilleux. Donc oui, je crois que de toute façon, le confinement ne doit... On parlait tout à l'heure de cycles naturels et d'horloges biologiques, et il en est de même dans nos actions. Je crois que c'est très important que nous nous mettions en mouvement, d'être in et off, le moment du sommeil et le moment de la vie sociale, quand bien même la vie sociale est réduite à la vie de couple ou la vie de famille. Je crois que c'est important pour les exemples que nous donnons à nos enfants, mais aussi pour le couple. Il ne faut pas négliger le couple. Ce n'est pas parce que l'on vit avec quelqu'un qui nous voit dormir, qui nous voit malade, qu'il ne faut pas prendre soin de l'apparence, de ce que nous montrons. Et d'ailleurs, au-delà de cela, ce n'est même pas pour l'autre, c'est pour soi. De se lever le matin, comme on fait son lit le matin, alors qu'on se recouchera le soir, on le sait tous, eh bien on le fait, juste pour montrer que le temps passe.
Et Catherine, dernière petite question rapide pour ceux qui auront la chance peut-être de faire connaissance avec quelqu'un pendant cette période de confinement. Il faut aussi leur dire que cette rencontre peut-être dans un mois et demi, ça va être génial, non? Peut-être parce qu'avoir attendu autant, ça crée, je sais pas, beaucoup d'attentes. Enfin, remarquez, on peut être déçu aussi.
Mais c'est-à-dire qu'on peut s'inventer des histoires qui ne sont pas, parce qu'en l'absence de l'autre, on écrit le texte, le sien, à sa place. Mais aussi, c'est une façon de faire monter l'excitation et les possibilités de la rencontre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.
N'ayons pas peur du temps qui passe.
Bien sûr, demain. Merci Catherine. N'oubliez pas demain, vous qui nous écoutez, rebelote, hein, nous restons mobilisés. Et envoyez-nous vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversées.